Chapitre 7. La visite domiciliaire. L'homme aux belles traditions de l'ancienne police et Corentin, ce phénix des espions, avait une mission secrète. Malin ne se trompait pas en prêtant un double rôle à ces deux artistes en farce tragique. Aussi, peut-être avant de les voir à l'œuvre, est-il nécessaire de montrer la tête à laquelle ils servaient de bras. Bonaparte, en devenant premier consul, trouva Fouché dirigeant la police générale. La Révolution avait fait franchement et avec raison un ministère spécial de la police. Mais, à son retour de Marengo, Bonaparte créa la préfecture de police, y plaça Dubois et appela Fouché au Conseil d'État en lui donnant pour successeur au ministère de la police le conventionnel Cochon, devenu depuis comte de Laparent. Fouché, qui regardait le ministère de la police comme le plus important dans un gouvernement à grande vue, à politique arrêtée, vit une disgrâce, ou tout au moins une méfiance, dans ce changement. Après avoir reconnu, dans les affaires de la machine infernale et de la conspiration dont il s'agit ici, l'excessive supériorité de ce grand homme d'État, Napoléon lui rendit le ministère de la police. Puis, plus tard, effrayé des talents que Fouché déploya pendant son absence lors de l'affaire de Walcheren, l'empereur donna ce ministère au duc de Rovigo et envoya le duc d'Otrante gouverner les provinces illyriennes, un véritable exil. Ce singulier génie qui frappa Napoléon d'une sorte de terreur ne se déclara pas tout à coup chez Fouché. Cet obscur conventionnel, l'un des hommes les plus extraordinaires et les plus mal jugés de ce temps, se forma dans les tempêtes. Il s'éleva, sous le directoire, à la hauteur d'où les hommes profonds savent voir l'avenir en jugeant le passé, puis, tout à coup, comme certains acteurs médiocres qui deviennent excellents éclairés par une lueur soudaine, il donna des preuves de dextérité pendant la rapide révolution du 18 Brumaire. Cet homme au pâle visage, élevé dans les dissimulations monastiques, qui possédait les secrets des montagnards auxquels il appartint et ceux des royalistes auxquels il finit par appartenir, avait lentement et silencieusement étudié les hommes, les choses, les intérêts de la scène politique. Il pénétra les secrets de Bonaparte, lui donna d'utiles conseils et des renseignements précieux. Satisfait d'avoir démontré son savoir-faire et son utilité, Fouché s'était bien gardé de se dévoiler tout entier, il voulait rester à la tête des affaires. Mais les incertitudes de Napoléon à son égard lui rendirent sa liberté politique. L'ingratitude, ou plutôt la méfiance de l'empereur, après l'affaire de Walcheren, explique cet homme qui, malheureusement pour lui, n'était pas un grand seigneur et dont la conduite fut calquée sur celle du prince de Talleyrand. En ce moment, ni ses anciens, ni ses nouveaux collègues ne soupçonnaient l'ampleur de son génie purement ministériel, essentiellement gouvernemental, juste dans toutes ses prévisions et d'une incroyable sagacité. Certes, aujourd'hui, pour tout historien impérial, l'amour-propre excessif de Napoléon est une des mille raisons de sa chute qui, d'ailleurs, a cruellement expié ses torts. Il se rencontrait chez ce défiant souverain une jalousie de son jeune pouvoir qui influa sur ses actes autant que sa haine secrète contre les hommes habiles, legs précieux de la Révolution, avec lesquels il aurait pu se composer un cabinet dépositaire de ses pensées. Talleyrand et Fouché ne furent pas les seuls qui lui donnèrent de l'ombrage. Or, le malheur des usurpateurs est d'avoir pour ennemis et ceux qui leur ont donné la couronne et ceux auxquels ils l'ont ôtée. Napoléon ne convainquit jamais entièrement de sa souveraineté ceux qu'il avait eus pour supérieurs et pour égaux, ni ceux qui tenaient pour le droit. Personne ne se croyait donc obligé par le serment envers lui. Malin, homme médiocre, incapable d'apprécier le ténébreux génie de Fouché, ni de se défier de son prompt coup d'œil, se brûla, comme un papillon à la chandelle, en allant le prier confidentiellement de lui envoyer des agents à Gondreville, où, dit-il, il espérait obtenir des lumières sur la conspiration. Fouché, sans effaroucher son ami par une interrogation, se demanda pourquoi Malin allait à Gondreville, comment il ne donnait pas à Paris et immédiatement les renseignements qu'il pouvait avoir. L'ex-oratorien, nourri de fourberies et au fait du double rôle joué par bien des conventionnels, se dit « Par qui malin peut-il savoir quelque chose quand nous ne savons pas encore grand-chose ?» Fouché conclut donc à quelque complicité latente ou expectante et se garda bien de rien dire au premier consul. Il aimait mieux se faire un instrument de malin que de le perdre. Fouché se réservait ainsi une grande partie des secrets qu'il surprenait et se ménageait sur les personnes un pouvoir supérieur à celui de Bonaparte. Cette duplicité fut un des griefs de Napoléon contre son ministre. Fouché connaissait les roueries auxquelles Malin devait sa terre de Gondreville et qui l'obligeait à surveiller messieurs de Simeuse. Les Simeuse servaient à l'armée de Condé, mademoiselle de Cinq-Cygne était leur cousine, ils pouvaient donc se trouver aux environs et participer à l'entreprise. Leur participation impliquait dans le complot la maison de Condé à laquelle ils s'étaient dévoués. Monsieur de Talleyrand et Fouché tenaient à éclaircir ce coin très obscur de la conspiration de 1803. Ces considérations furent embrassées par Fouché rapidement et avec lucidité. Mais il existait entre Malin, Talleyrand et lui des liens qui le forçaient à employer la plus grande circonspection et lui faisaient désirer de connaître parfaitement l'intérieur du château de Gondreville. Corentin était attaché sans réserve à Fouché, comme monsieur de la Bénardière au prince de Talleyrand, comme Gens à monsieur de Metternich, comme Dundas à Pitt, comme Duroc à Napoléon, comme Chavigny au cardinal de Richelieu. Corentin fut, non pas le conseil de ce ministre, mais son âme damnée, le Tristan secret de ce Louis XI au petit pied. Aussi Fouché l'avait-il laissé naturellement au ministère de la police afin d'y conserver un œil et un bras. Ce garçon devait, disait-on, appartenir à Fouché par une de ses parentés qui ne s'avoue point, car il le récompensait avec profusion toutes les fois qu'il le mettait en activité. Corentin s'était fait un ami de Peyrade, le vieil élève du dernier lieutenant de police, néanmoins il eut des secrets pour Peyrade. Corentin reçut de Fouché l'ordre d'explorer le château de Gondreville, d'en inscrire le plan dans sa mémoire et d'y reconnaître les moindres cachettes. Nous serons peut-être obligés d'y revenir, lui dit l'ex-ministre, absolument comme Napoléon dit à ses lieutenants de bien examiner le champ de bataille d'Austerlitz jusqu'où il comptait reculer. Corentin devait encore étudier la conduite de Malin, se rendre compte de son influence dans le pays, observer les hommes qu'il y employait. Fouché regardait comme certaine la présence des Simeuse dans la contrée. En espionnant avec adresse ces deux officiers aimés du prince de Condé, Peyrade et Corentin pouvaient acquérir de précieuses lumières sur les ramifications du complot au-delà du Rhin. Dans tous les cas, Corentin eut les fonds, les ordres et les agents nécessaires pour cerner Cinq-Cygne et moucharder le pays depuis la forêt de Nodème jusqu'à Paris. Fouché recommanda la plus grande circonspection et ne permit la visite domiciliaire à Cinq-Cygne qu'en cas de renseignement positif donné par Malin. Enfin, comme renseignement, il mit Corentin au fait du personnage inexplicable de Michu, surveillé depuis 3 ans. La pensée de Corentin fut celle de son chef. Malin connaît la conspiration. Mais qui sait, se dit-il, si Fouché n'en est pas aussi. Corentin, parti pour 3 avant Malin, s'était entendu avec le commandant de la gendarmerie et avait choisi les hommes les plus intelligents en leur donnant pour chef un capitaine habile. Corentin indiqua pour lieu de rendez-vous le château de Gondreville à ce capitaine en lui disant d'envoyer à la nuit, sur 4 points différents de la vallée de Cinq-Cygne et à d'assez grandes distances pour ne pas donner l'alarme, un piquet de 12 hommes. Ces 4 piquets devaient décrire un carré et le resserrer autour du château de Cinq-Cygne. En le laissant mettre au château pendant sa consultation avec Grévin, Malin avait permis à Corentin de remplir une partie de sa mission. À son retour du parc, le conseiller d'État avait si positivement dit à Corentin que les Simeuse et les d'Auxerre étaient dans le pays, que les 2 agents expédièrent le capitaine qui, fort heureusement pour les gentilshommes, traversa la forêt par l'avenue pendant que Michu grisait son espion Violette. Le conseiller d'État avait commencé par expliquer à Peyrade et à Corentin le guet-apens auquel ils venaient d'échapper. Les deux Parisiens lui racontèrent alors l'épisode de la carabine, et Grévin envoya Violette pour obtenir quelques renseignements sur ce qui se passait au pavillon. Corentin dit au notaire d'emmener, pour plus de sûreté, son ami le conseiller d'État couché à la petite ville d'Arcy, chez lui. Au moment où Michu se lançait dans la forêt et courait à cinq signes, Peyrade et Corentin partirent donc de Gondreville dans un méchant cabriolet d'osier, attelé d'un cheval de poste, et conduit par le brigadier d'Arcy, un des hommes les plus rusés de la Légion, et que le commandant de Troyes leur avait recommandé de prendre. « Le meilleur moyen de tout saisir est de les prévenir, » dit Peyrade à Corentin. « Au moment où ils seront effarouchés, où ils voudront sauver leurs papiers ou s'enfuir, nous tomberons chez eux comme la foudre. Le cordon de gendarmes, en se resserrant autour du château, fera l'effet d'un coup de filet. Ainsi, nous ne manquerons personne. » « Vous pouvez leur envoyer le maire, » dit le brigadier. « Il est complaisant, il ne leur veut pas de mal, ils ne se défieront pas de lui. » Au moment où Goulard allait se coucher, Corentin, qui fit arrêter le cabriolet dans un petit bois, était donc venu lui dire confidentiellement que dans quelques instants, un agent du gouvernement allait le requérir de cerner le château de Cinq-Cygnes afin d'y empoigner messieurs d'Auxerre et de Simeuse. Que, dans le cas où ils auraient disparu, l'on voulait s'assurer s'ils y avaient couché la nuit dernière, fouiller les papiers de mademoiselle de Cinq-Cygnes et peut-être arrêter les gens et les maîtres du château. « Mademoiselle de Cinq-Cygnes, dit Corentin, est sans doute protégée par de grands personnages, car j'ai la mission secrète de la prévenir de cette visite et de tout faire pour la sauver sans me compromettre. Une fois sur le terrain, je ne serai plus le maître, je ne suis pas seul. Ainsi, courez au château. » Cette visite du maire au milieu de la soirée étonna d'autant plus les joueurs que Goulard leur montrait une figure bouleversée. « Où se trouve la comtesse ? Demanda-t-il. « Elle se couche ?» dit madame d'Auxerre. Le maire incrédule se mit à écouter les bruits qui se faisaient au premier étage. « Qu'avez-vous aujourd'hui, Goulard ?» lui dit madame d'Auxerre. Goulard roulait dans les profondeurs de l'étonnement en examinant ces figures pleines de la candeur qu'on peut avoir à tout âge. À l'aspect de ce calme et de cette innocente partie de Boston interrompue, il ne concevait rien aux soupçons de la police de Paris. En ce moment, Laurence, agenouillée dans son oratoire, priait avec ferveur pour le succès de la conspiration. Elle priait Dieu de prêter aide et secours aux meurtriers de Bonaparte. Elle implorait Dieu avec amour de briser cet homme fatal. Le fanatisme des Harmodius, des Judith, des Jacques Clément, des Ancastrom, des Charlotte Corday, des Limoëlan animait cette belle âme, vierge et pure. Catherine préparait le lit, Gothard fermait les volets, en sorte que Marthe Michu, arrivée sous les fenêtres de Laurence et qui y jetait des cailloux, put être remarquée. « Mademoiselle, il y a du nouveau, » dit Gothard en voyant une inconnue. « Silence !» dit Marthe à voix basse. « Venez me parler !» Gothard fut dans le jardin en moins de temps qu'un oiseau n'en aurait mis à descendre d'un arbre à terre. « Dans un instant, le château sera cerné par la gendarmerie. Toi, » dit-elle à Gothard, « scelle sans bruit le cheval de mademoiselle et fais-le descendre par la brèche de la Douve, entre cette tour et les écuries. » Marthe tressaillit en voyant à deux pas d'elle Laurence qui suivait Gothard. « Qu'y a-t-il ? » dit Laurence simplement et sans paraître émue. « La conspiration contre le premier consul est découverte, » répondit Marthe dans l'oreille de la jeune comtesse. « Mon mari, qui songe à sauver vos deux cousins, m'envoie vous dire de venir vous entendre avec lui. » Laurence recula de trois pas et regarda Marthe. « Qui êtes-vous ? » dit-elle. « Marthe Michu. »« Je ne sais pas ce que vous me voulez, » répliqua froidement mademoiselle de Cinq-Cygnes. « Allons vous les tuer ! Venez au nom des Simeuses !» dit Marthe en tombant à genoux et tendant ses mains à Laurence. « N'y a-t-il aucun papier ici, rien qui puisse vous compromettre ? Du haut de la forêt, mon mari vient de voir briller les chapeaux ornés et les fusils des gendarmes. » Gothard avait commencé par grimper au grenier. Il aperçut de loin les broderies des gendarmes. Il entendit par le profond silence de la campagne le bruit de leurs chevaux. Il dégringola dans l'écurie, sella le cheval de sa maîtresse, au pied duquel, sur un seul mot de lui, Catherine attacha des linges. « Où dois-je aller ? dit Laurence à Marthe, dont le regard et la parole la frappèrent par l'inimitable accent de la sincérité. « Par la brèche, » dit-elle en entraînant Laurence, « mon noble homme y est, vous allez apprendre ce que vaut un Judas. » Catherine entra vivement au salon, y prit la cravache, les gants, le chapeau, le voile de sa maîtresse et sortit. Cette brusque apparition et l'action de Catherine étaient un si parlant commentaire des paroles du maire que Madame d'Auxerre et l'abbé Gouget échangèrent un regard par lequel ils se communiquèrent cette horrible pensée. « Adieu tout notre bonheur, Laurence conspire, elle a perdu ses cousins et les deux d'Auxerre. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Monsieur d'Auxerre à Goulard. « Mais le château est cerné, vous allez avoir à subir une visite domiciliaire. Enfin, si vos fils sont ici, faites-les sauver ainsi que messieurs de Simeuse. »« Mes fils ?» s'écria Madame d'Auxerre stupéfaite. « Nous n'avons vu personne, » dit Monsieur d'Auxerre. « Tant mieux, » dit Goulard, « mais j'aime trop la famille de Cinq-Cygnes et celle de Simeuse pour leur voir arriver malheur. Écoutez-moi bien, si vous avez des papiers compromettants... »« Des papiers ?» répéta le gentilhomme. « Oui, si vous en avez, brûlez-les, » reprit le maire. « Je vais aller amuser les agents. » Goulard, qui voulait ménager la chèvre royaliste et le chou républicain, sortit, et les chiens aboyèrent alors avec violence. « Vous n'avez plus le temps, les voici, » dit le curé. « Mais qui préviendra la comtesse? Où est-elle ?»« Catherine n'est pas venue prendre sa cravache, ses gants et son chapeau pour en faire des reliques, » dit Mademoiselle Gouget. Goulard essaya de retarder pendant quelques minutes les deux agents en leur annonçant la parfaite ignorance des habitants du château de Cinq-Cygnes. « Vous ne connaissez pas ces gens-là, » dit Peyrade en riant au nez de Goulard. Ces deux hommes si doucereusement sinistres entrèrent alors, suivis du brigadier Darcy et d'un gendarme. Cet aspect glaça d'effroi les quatre paisibles joueurs de Boston qui restèrent à leur place, épouvantés par un pareil déploiement de force. Le bruit produit par une dizaine de gendarmes, dont les chevaux piaffaient, retentissait sur la pelouse. « Il ne manque ici que Mademoiselle de Cinq-Cygnes, » dit Corentin. « Mais elle dort sans doute dans sa chambre, » répondit Monsieur d'Auxerre. « Venez avec moi, mesdames, » dit Corentin en s'élançant dans l'antichambre et de là dans l'escalier où Mademoiselle Gouget et Madame d'Auxerre le suivirent. « Comptez sur moi, » reprit Corentin en parlant à l'oreille de la vieille dame. « Je suis un des vôtres. Je vous ai envoyé déjà le maire. Défiez-vous de mon collègue et confiez-vous à moi, je vous sauverai tous. » « De quoi s'agit-il donc ? » demanda Mademoiselle Gouget. « De vie et de mort, ne le savez-vous pas ? » répondit Corentin. Madame d'Auxerre s'évanouit. Au grand étonnement de Mademoiselle Gouget et au grand désappointement de Corentin, l'appartement de Laurence était vide. Sûr que personne ne pouvait s'échapper ni du parc ni du château dans la vallée, dont toutes les issues étaient gardées, Corentin fit monter un gendarme dans chaque pièce, il ordonna de fouiller les bâtiments, les écuries, et redescendit au salon où déjà Durieux, sa femme et tous les gens s'étaient précipités dans le plus violent émoi. Peyrade étudiait de son petit œil bleu toutes les physionomies, il restait froid et calme au milieu de ce désordre. Quand Corentin reparut seul, car Mademoiselle Gouget donnait des soins à Madame d'Auxerre, on entendit un bruit de chevaux mêlé à celui des pleurs d'un enfant. Les chevaux entraient par la petite grille. Au milieu de l'anxiété générale, un brigadier se montra, poussant Gothard les mains attachées, et Catherine qui l'amena devant les agents. « Voilà des prisonniers, » dit-il. « Ce petit drôle était à cheval et se sauvait. »« Imbécile !» dit Corentin à l'oreille du brigadier stupéfait. « Pourquoi ne pas l'avoir laissé aller ? Nous aurions su quelque chose en le suivant. » Gothard avait pris le parti de fondre en larmes à la façon des idiots. Catherine restait dans une attitude d'innocence et de naïveté qui fit profondément réfléchir le vieil agent. L'élève de Lenoir, après avoir comparé ses deux enfants l'un à l'autre, après avoir examiné l'air niais du vieux gentilhomme qu'il crut rusé, le spirituel curé qui jouait avec les fiches, la stupéfaction de tous les gens et des Durieux, vint à Corentin et lui dit à l'oreille « Nous n'avons pas affaire à des gnôles. » Corentin répondit d'abord par un regard en montrant la table de jeu, puis il ajouta. « Ils jouaient au Boston. On faisait le lit de la maîtresse du logis, elle s'est sauvée, ils sont surpris, nous allons les serrer.